Le meurtrier à jouets serrés par Leonard Thompson. Elle passa rapidement près de la femme de ménage et franchit le seuil de la porte. Le premier bureau était encombré de livres et de papiers épars, quelques bouteilles de whisky traînaient dans un coin. Il n'y avait pas d'ampoule dans la douille et un rideau usé tamisait les rayons du soleil. L'air était chargé de poussière. Dans le second bureau, elle aperçut un homme qui dormait à sa table de travail, la tête sur les bras, une bouteille vide à côté de lui. Elle le secoua par les épaules, il leva la tête et la laissa retomber en marmonnant quelques mots inintelligibles. « Monsieur Gray !» Il releva brusquement la tête, fixant sur elle des yeux injectés de sang. Son costume noir, qui avait dû être au foin un vêtement élégant, était tout froissé et couvert de taches d'alcool. Avec ses cheveux hirsutes, ses yeux rouges et sa bouche stupidement ouverte, il paraissait largement 50 ans, alors qu'il en avait en réalité à peine 40. « Je... quoi ?» dit-il en se frottant les yeux. « Vous êtes William Gray, l'avocat, le grand criminaliste. » Il la regarda et se mit à rire. « Oui, je suis Bill Gray, le grand avocat criminaliste. Ne voulez-vous pas vous asseoir dans mon luxueux cabinet ?» D'un geste de sa main sale, il désigna la misérable pièce. « Vous êtes probablement un écrivain en mal de copie, qui aime voir ce que le destin a fait de ce pauvre vieux Bill Gray. » Elle hocha la tête en signe de dénégation. Il fouilla dans ses poches et murmura. « Je crois que je n'ai plus de cigarette. Vous n'en auriez pas une par hasard. » Elle lui tendit un étui en argent. Il l'ouvrit d'un déclic et glissa une cigarette entre ses lèvres sèches. Elle alluma son briquet et approcha la flamme de la cigarette. Il poussa un soupir de satisfaction. « Eh bien, que voulez-vous? Des idées pour un roman? À moins que vous ne soyez venu me contraindre à évacuer les bureaux de mon impressionnant cabinet. Je désire vous confier une affaire. » Lentement, il retira sa cigarette de la bouche et dit avec une moue dégoûtée. « Vous êtes folle. Je suis un homme fini. Vous ne lisez donc pas les journaux? Bill Gray est une loque, un alcoolique invétéré. Il n'a plus rien dans le cerveau. D'autres avocats m'ont dit que mon cas était sans espoir. Je suis allé trouver un de vos anciens associés. Il s'est contenté de rire et m'a conseillé de venir vous trouver. Vous auriez dû comprendre qu'il plaisantait. Pourquoi êtes-vous venu ? » Elle alluma une cigarette. J'ai entendu parler de vous. Vous avez tiré d'affaire des gens dont le cas était désespéré, alors que d'autres avocats refusaient de s'occuper d'eux. J'ignore ce qu'il vous est arrivé, et cela ne me regarde d'ailleurs pas. Mais je sais que vous étiez l'un de nos plus brillants avocats, et je suis convaincu que vous êtes toujours capable d'accomplir des miracles. En outre, vous êtes mon dernier espoir. » Il passa la langue sur ses lèvres. « Un meurtre ?» Elle acquiesça. Il hocha lentement la tête, les paupières mi-closes. « Il est inutile que je vous fasse perdre votre temps. Je n'ai pas mis les pieds à la cour depuis 2 ans. Je m'y sentirais perdu, et on se moquerait de moi. » « Cela vous est déjà arrivé ?»« Oui, mais à cette époque-là, je pouvais me permettre de me moquer de ceux qui se moquaient de moi. » Elle s'agita nerveusement sur sa chaise et se tut un moment avant de reprendre. « Si vous vous occupez de cette affaire, je vous donnerai 10 000 $. » Il leva légèrement les sourcils. « Vous êtes vraiment réduite au désespoir, il me semble. » « Si vous acceptez cette affaire, vous verrez pourquoi. » « Non, même pour 10 000 $, je ne me représenterai pas devant la cour. » « Je n'en suis plus capable. » Elle jeta sa cigarette sur le parquet et l'écrasa du pied. « Bon, alors je vous propose un compromis. Étudiez le dossier, et si vous refusez de vous en charger, libre à vous. Si vous l'acceptez, je vous donnerai 100 $ par semaine, outre les frais que vous aurez engagés. »« C'est stupide, » dit-il. Il passa la main dans ses cheveux grisonnants et bâilla. « Entendu. J'accepte à condition qu'il me soit permis d'abandonner l'affaire si j'en ai envie. » « Pour aujourd'hui, en guise d'honoraire, vous m'inviterez à dîner. Je suis à sec. Entendu ?» Il la regardait avec un sourire narquois. « Où dînons-nous ? » Gray avait déjà l'air moins lamentable. Il avala le reste de son café et demanda d'une voix qui avait retrouvé le ton professionnel. « Maintenant que je vous extorque un repas, j'aimerais connaître les détails de cette affaire. » Elle alluma une nouvelle cigarette, fronça les sourcils et dit « Je ne sais pas raconter les histoires. Je commencerai donc par les faits essentiels. Mon mari est accusé du meurtre d'un certain Dr. Lane et va comparaître devant la cour d'assises. Ce docteur est, ou plutôt était, un psychiatre. Il me soignait pour une dépression nerveuse et mon mari est devenu jaloux. Il a trouvé que le traitement durait plus longtemps qu'il le jugeait nécessaire et a pris lui-même un rendez-vous pour 10 heures du matin. L'assistant du docteur l'a introduit dans la salle d'attente et est retourné dans son bureau. Ayant oublié quelque chose, elle est revenue dans la salle d'attente. Mon mari se tenait debout au milieu de la pièce, un revolver à la main. Elle passa en courant et se précipita dans le cabinet du docteur. Il était affaissé sur son bureau, une balle dans la tête, mort. Et alors ? Mon mari a balbutié que ce n'était pas lui et a marmonné quelques mots à l'appui de ses dires. L'assistante a appelé la police. Les inspecteurs ont interrogé tout le monde. Ils ont appris que mon mari était le premier visiteur de la matinée et qu'il n'y avait personne dans ces deux pièces à part lui et le docteur. Ils en ont déduit que mon mari était venu dans l'intention de tuer Lane et l'ont arrêté. Gray repoussa sa tasse de café. « Et quelle est la version de votre mari ?» Il déclare qu'il était tranquillement assis sur une chaise dans la salle d'attente lorsqu'il a entendu un plop, puis une sorte de grognement. Il s'est précipité dans le bureau. Il y a trouvé Lane mort et en traversant la salle d'attente pour prévenir l'assistante, il aperçut un revolver sur l'épais tapis persan. Il l'a ramassé et Miss Williams, l'assistante, est entrée juste à ce moment-là. Il s'est rendu compte de ce qu'elle pouvait penser. Elle lui a dit que ce n'était pas lui le coupable. Quand la police est arrivée, il lui a expliqué ce que je viens de vous raconter. Est-il coupable ? S'il ne l'est pas, c'est à vous de le prouver. S'il l'est, c'est à vous de le tirer d'affaire. Il joue avec sa bague en approuvant d'un signe de tête. « Très bien. Essayons de débrouiller cette histoire. Cette Miss Williams est prête à jurer que votre mari était seul dans la salle d'attente et que le docteur était seul dans son cabinet. Est-elle l'unique témoin à charge ? Non. Sans cela, je pense que la situation ne serait pas si grave. Il y a également un secrétaire et aussi un fournisseur d'articles médicaux qui était venu livrer plusieurs choses et se trouvait dans le premier bureau près de l'entrée. » Une seconde, que je me rende bien compte de tous les détails. Autrement dit, étant donné la disposition des lieux, si je voulais me rendre dans le cabinet du docteur, il me faudrait passer d'abord par ce premier bureau, puis par la salle d'attente et de là, dans son cabinet. Oui, c'est bien cela. Combien y a-t-il de portes dans la salle d'attente et dans le cabinet du docteur ? Dans la salle d'attente, il y en a deux. Une qui donne dans le premier bureau, l'autre dans le cabinet du docteur. Chez lui, il n'y en a qu'une, celle qui donne sur la salle d'attente. Il fronça les sourcils. C'est bien fâcheux. Continuez. Eh bien, ce livreur d'articles médicaux se trouvait dans le premier bureau lorsque mon mari est arrivé. Et il y était encore lorsque Miss Williams, ayant oublié quelque chose, est revenue et a trouvé mon mari le revolver à la main. Il y a donc trois témoins, le livreur, le secrétaire et Miss Williams. Oui. Leur témoignage prouve que mon mari était seul avec le docteur Lane. Et quand la police est arrivée, il n'y avait dans les bureaux que les personnes dont je viens de vous parler. Par conséquent, personne ne se cachait dans la pièce et n'a pu tirer sur Lane. Autrement dit, votre mari est le seul qui ait pu tuer le docteur. Elle acquiesça d'un signe de tête. Et les fenêtres ? Son cabinet se trouve-t-il au rez-de-chaussée ? C'est précisément ce qu'invoque mon mari pour sa défense. Les trois pièces sont au rez-de-chaussée, d'une maison privée. C'était une chaude journée de mai et l'unique fenêtre du cabinet était ouverte. Mon mari était assis le dos tourné à cette fenêtre et il a déclaré qu'on avait dû tirer au travers dans le cabinet du docteur. Quelle est exactement la position de la fenêtre par rapport à la porte ? Si vous vous teniez dans l'embrasure de la porte en tournant le dos au premier bureau, vous auriez la fenêtre à votre droite, au milieu du mur et la porte ouvrant sur le cabinet de Lane exactement en face de vous. Où se trouvait le bureau du docteur ? Dans le coin du fond, à la diagonale gauche. Mais la porte ouvrant dans la salle d'attente et elle était bloquée à angle droit. Il traça un schéma grossier sur la nappe. Ce qui veut dire que si quelqu'un avait tiré de la fenêtre dans le cabinet de Lane, la balle aurait dû passer à travers le battant. Oui, mais il n'y a pas de trou dans la porte et les fenêtres du bureau qui étaient fermées sont intactes. Il rit et lui dit « Je comprends maintenant pourquoi aucun avocat n'a voulu se charger de ce dossier. » Il est tout simplement impossible que quelqu'un d'autre que votre mari ait commis ce crime. Voulez-vous étudier le dossier ? Qui l'assistait à l'interrogatoire ? Ses avocats. Mais ils ont refusé de se mêler du procès. Il faudra que je les voie. Vous acceptez donc de vous charger de cette affaire ? Certainement. Est-il en prison ? Oui, Il a été arrêté après un interrogatoire et on lui a refusé la liberté sous caution. Je me demande pourquoi vous ne m'avez pas dit votre nom. Elle soupira. J'ai dû oublier. C'est Marlowe. Louise Marlowe. Mon mari s'appelle Niles Marlowe. Ce n'est pas l'auteur des romans policiers. Elle acquiesça. Il fronça les sourcils mais changea de sujet. A-t-il signé une déclaration quelconque? Non. Ses avocats lui ont conseillé de ne rien dire si ce n'est pour nier ce dont on l'accuse. Quand l'affaire doit-elle venir? Dans une semaine. Il se renfrogna et écrasa sa cigarette dans l'assiette. Vous m'avez joué un sale tour en me proposant $100 par semaine, alors que vous saviez très bien qu'il n'y en aurait qu'une. Elle ne répondit rien et ferma à moitié les yeux. Je n'ai qu'une semaine pour préparer ce dossier. J'aurai besoin de beaucoup d'argent, et cela dès aujourd'hui. Il va me falloir des collaborateurs et des détectives privés. Je veux que personne ne sache que vous êtes venu me trouver. Je verrai votre mari avant l'audience, probablement la veille. N'est-ce pas inusité? Ne devriez-vous pas plutôt vous entendre à l'avance avec lui sur ce qu'il devra dire? Cette affaire n'est pas une affaire ordinaire. Laissez-moi agir comme je l'entends, et apprêtez-vous plutôt à payer des amendes. J'en récolterai certainement plus d'une fois pour injure au magistrat. Elle ne posa aucune question, se contentant d'approuver. Il se leva. Signez-moi un chèque de $5,000 et n'allez pas le crier sur les toits. Et puis, je vous avertis, mon client, ce n'est pas vous, c'est votre mari. J'ai l'intention de n'épargner personne pour le sauver, pas même vous. Elle sortit un carnet de chèque de son sac et prépare le chèque. Non, dit Gray. G-R-A-Y, pas E-Y. Elle le froissa, le jeta et en signa un nouveau. Elle l'arracha du carnet et le lui tendit. La serveuse s'approcha de leur table et Mrs. Marlowe régla l'addition. « Et maintenant, qu'allez-vous faire ?» Il sourit. « M'acheter un paquet de cigarettes. » La salle d'audience était comble et tous, depuis l'homme de peine du premier rang jusqu'au procureur qui jetait des coups d'œil inquiets vers la pendule, se demandait quel pouvait bien être l'avocat de la défense. Un seul bruit circula à ce propos. Un gardien racontait qu'une espèce de vil ivrogne avait rendu visite à l'accusé la veille et qu'il avait prétendu être son avocat. Comme l'huissier ouvrait les hautes fenêtres de la salle pour rafraîchir l'atmosphère, tous les regards convergèrent vers l'homme qui se dirigeait d'un pas énergique vers le jury. Gray n'avait nullement l'air d'une espèce d'ivrogne. Son coûteux costume gris clair orné d'une rose blanche à la boutonnière, sa cravate bleu foncé, sa chemise blanche de $20, tout contribuait à lui donner l'allure d'un opulent homme d'affaires. Il passa près de Mrs. Marlowe, ébahi, et prit place à côté de son client. Abbott, l'attorney du district, qui était l'avocat de l'accusation, s'approcha de la table de Gray. « Il me semble vous avoir déjà vu quelque part. »« Je m'appelle Gray, William S. Gray. » Abbott appuya ses mains grasses sur la table. « William Gray, mais Gray était un jeune. Oh, pardon, Gray. » J'avais dû oublier votre physionomie. Gray sortit une bouteille thermos de sa serviette et la posa sur la table. L'alcool vous transforme, hein? Dit-il. Abbott hésita, tripotant sa chaîne de montre. Gray, vous êtes absolument fou. Marlowe est le seul qui ait pu tuer Lane. Si vous aviez l'intention de faire une rentrée sensationnelle, vous avez mal choisi votre affaire. Elle est perdue d'avance. La porte du cabinet du président s'ouvrit et Abbott s'assit. Le président Thompson était assez âgé pour avoir acquis une certaine dignité, mais assez jeune encore pour être redouté. Il jeta un coup d'œil sur l'assistance qui attendait debout et son regard s'attarda sur le visage souriant de Gray. Il prit son pince-nez et l'ajusta. « L'avocat de la défense voudra bien se nommer pour que le greffier puisse inscrire son nom. William S. Gray. » Le président leva imperceptiblement ses sourcils broussailleux et s'assit. Aussitôt les questions préliminaires posées, Abbott donna lecture au jury de l'acte d'accusation. On ne peut invoquer la légitime défense, l'accusé n'a fait preuve d'aucun sentiment humain, et ainsi que l'accusation va le démontrer. Gray se tourna vers son client et lui dit à voix assez haute. Avez-vous jamais rien écrit d'aussi mauvais dans vos romans? Quelqu'un ricana dans la salle. Abbott eut un moment d'hésitation, puis décida de ne pas relever l'incident et termina par ces mots. Les témoignages prouveront que Niles Marlowe était le seul être humain susceptible d'avoir pu tuer le docteur Lane. On appela le premier témoin à charge. Miss Mary Williams prêta serment et Abbott, les mains dans les poches, demanda. « Vous étiez l'assistante du docteur Lane, le psychiatre ?»« Oui, monsieur. Je travaille chez lui depuis 4 ans. »« Voulez-vous expliquer à la cour ce qui s'est passé le 15 mai 1942 chez le docteur Lane ? Grace se leva d'un bond. Opposition ! Mr. Abbott n'a pas le droit de lui demander d'expliquer ce qui s'est passé. Elle ne peut que le raconter. Le président Thompson approuva et se tournant vers Abbott lui dit « Veuillez poser la question autrement. » Abbott grommela en haussant les épaules. « Très bien. Voulez-vous donc raconter ce qui s'est passé ?»« Voilà. Le docteur Lane m'avait dit la veille qu'il attendait quelqu'un à 10h du matin. C'était l'heure normale du premier rendez-vous de la journée. À 9h55, Mr. Marlowe a sonné et je l'ai introduit dans la salle d'attente. « Veuillez indiquer la pièce en question sur ce plan du rez-de-chaussée. » Elle la désigna du doigt. « Qu'avez-vous dit à l'accusé ?»« Que le docteur Lane était occupé et le recevrait dès qu'il aurait fini de consulter quelques fiches. » « L'accusé était-il le premier client de la journée ?»« Oui. » « Était-il seul dans la salle d'attente ?»« Oui. » « Le docteur Lane était-il également seul dans son bureau ?»« Oui. » La porte de communication entre ces deux pièces était-elle ouverte ? Oui, monsieur, elle était bloquée. À angle droit, par rapport au mur ? Oui. Qu'avez-vous fait après avoir introduit l'accusé dans la salle d'attente ? Je l'y ai laissé et je suis allé dans le second bureau en refermant la porte derrière moi. Le livreur d'articles médicaux venait d'arriver. Il apportait plusieurs produits et je suis sorti pour vérifier sa livraison dans le camion. Le livreur était-il dans le premier bureau quand Mr. Marlowe est entré ? Oui. Il lui demanda de continuer. En arrivant près du camion, je me suis rappelé que le docteur Lane ne m'avait pas donné d'argent pour payer la livraison et je suis retourné dans le premier bureau. J'ai ouvert la porte de la salle d'attente. Qu'avez-vous vu ? Mr. Marlowe était debout, le dos tourné, un revolver à la main. Qu'avez-vous fait ? J'ai compris qu'il était arrivé quelque chose et je me suis précipité dans le cabinet du docteur. Il était assis à sa table de travail, la tête penchée en avant, il était mort. Il y avait une balle dans la tête et le sang coulait le long de sa joue. « Opposition !» s'écria Gray. Le témoin ne pouvait pas savoir que la blessure avait été causée par une balle. Elle l'a simplement supposé, parce que son client tenait un revolver. Il y a bien des choses qui peuvent trouer la peau et y faire une blessure analogue à celle d'une balle. Le témoin ne peut pas faire une telle déclaration à moins d'avoir été là quand la balle a été extraite. Le président Thompson réfléchit quelques secondes puis se tourna vers le témoin. « Nous prenons note de votre déclaration, mais veuillez vous abstenir de faire des déductions personnelles, Miss Williams. » Elle acquiesça en souriant. « Oui, votre honneur, mais je trouve Mr. Gray bien stupide. » Gray se leva d'un bond et manqua de renverser sa bouteille thermos. « Et moi, s'écria-t-il, je trouve que Miss Williams devrait bien fermer son damné bec. » Son honneur sursauta, les jurés carquillèrent les yeux, les lèvres de Miss Williams remuèrent sans qu'aucun son en sortît. La figure d'Abbott s'éclaira d'un large sourire quand il leva les yeux vers le président. « Ceci, dit le président, va vous coûter $100. « Pourquoi ? Pour quelle raison ? Demanda Gray. « Pour quelle raison ? Outre votre honneur. Croyez-vous à l'existence de Dieu ? Oui, mais quel... Alors comment savez-vous qu'il n'a pas maudit la bouche de Miss Williams ?» Un reporter au premier rang se mit à rire. Le président lança un regard furieux à Gray. « Cette nouvelle stupidité vous coûtera 100 autres $. » Gray croisa les bras. « Je refuse de payer. » Furieux, le président frappa le tribunal de son marteau. « L'audience est suspendue pendant un quart d'heure. Mr. Gray, venez avec moi, je vous prie. » Lorsqu'ils furent sortis, tous deux, le sourire d'Abbott s'élargit encore. Un long murmure s'éleva dans la salle où tout le monde parlait à la fois. Marlowe jetait des regards inquiets vers la porte par laquelle était sorti le président. Miss Williams, un peu calmée, s'était assise sur la chaise des témoins et souriait. Ils revinrent. Le président reprit sa place, frappa sur son pupitre pour réclamer le silence et se tourna vers Miss Williams. L'avocat de la défense vient de me déclarer qu'il était malade, à la fois mentalement et physiquement. Je dois donc vous demander de vous abstenir de toute provocation et de lui présenter vos excuses pour avoir dit qu'il était stupide. Il n'y avait plus moyen d'empêcher les murmures. Tout le monde, jusqu'au greffier, semblait ahuri. Abbott se rembrunit et observa Gray. Miss Williams eut un sourire contraint. « Je regrette, Mr. Gray. Je ne pensais pas à ce que j'ai dit. »« J'accepte vos excuses, » répondit Gray d'un ton hautain. Abbott était resté bouche bée. Quand l'agitation se fut calmée, il reprit l'interrogatoire, tout en jouant nerveusement avec un bouton de son veston. « Quel a été votre premier geste quand vous avez vu le docteur Lane mort, une balle dans la tête ?»« Elle avait téléphoné à la police. »« Y avait-il un silencieux sur l'arme ? Oui. Le docteur Lane avait-il eu l'occasion de faire des réflexions concernant Mrs. Marlowe ? Oui, pendant qu'elle était en traitement. Il me disait qu'un aussi piètre auteur de romans policiers ne méritait pas une femme comme elle. Gray bondit. « Votre honneur !»« Mon client est un des auteurs les plus lus, les plus adroits et les mieux payés d'Amérique. Je déplore les calomnies de ce genre. » Miss Williams sourit. « Je ne faisais que citer le docteur Lane. »« Peu m'importe qui, votre honneur !» intervint aigrement Abbott. « L'avocat de la défense ne cherche qu'à faire traîner le procès en formulant ses objections dénuées de sens. » « Je ne formulais aucune objection, » dit Gray. « Je faisais seulement remarquer que je déplorais qu'une telle opinion fût émise. » Le président toussa. « Cessez de vous quereller et continuez l'interrogatoire du témoin. » Avec un soupir, Abbott se tourna vers Miss Williams. « Les relations du docteur et de la femme de l'accusé étaient-elles plus qu'amicales ?» Il défia Gray du regard, s'attendant à une opposition. Mais Gray ne regardait même pas le témoin. Il avait les yeux fixés d'un air absent sur la fenêtre. « Oui, » répondit Miss Williams. « Un jour, j'aperçus du rouge à lèvres sur la joue du docteur, juste après le départ de Miss Marlowe. L'accusé avait-il l'air nerveux ou inquiet avant le crime ? Il avait tout de l'homme qui va en tuer un autre. Pas d'opposition. » Abbott mit un revolver sous les yeux du témoin. Il y avait un silencieux au canon. « Ce revolver est-il celui que vous avez vu entre les mains de Miss Marlowe ? Il ressemble, mais je ne peux pas l'affirmer. » Abbott se tourna vers Gray. « Avez-vous des questions à poser aux témoins ?» Gray acquiesça d'un signe de tête, dévissa le bouchon gobelet de sa bouteille thermos, y versa lentement un liquide noirâtre et but son café. Puis remettant le gobelet en place, il se leva. Miss Williams serrait les dents, prête à la lutte, et tandis qu'il s'approchait d'elle, elle le regardait d'un air de défi. Il baissa brusquement la tête et leurs nez en vinrent presque à se toucher. Elle se rejeta en arrière. « Vous connaissiez le docteur Lane depuis longtemps ? » « Aviez-vous couché ?» Une femme cria quelque chose, mais le bruit des voix couvrit ses paroles. Le président, qui était en train de boire un verre d'eau, eut tout à coup le devant de sa robe tout luisant d'humidité. Abbott lançait, mais en vain, des protestations qui se perdaient dans le tumulte. À la fin, il hurla. « Votre honneur ! Il n'a absolument pas le droit de poser une telle question, et j'exige que le témoin refuse de répondre !» Gray commença à parler et le tumulte s'apaisa. J'ai été interrompu, votre honneur, et n'ai pu achever ma question. Le président Thompson hocha la tête. Bon, achevez-la, alors. J'allais dire, aviez-vous couché sous le même toit que lui ?
Je maintiens mon opposition, répliqua Abbott. J'ai l'intention de m'expliquer
sur ce point, dit Gray.
Très bien.
Le président essuya sa robe avec un mouchoir.
Il sera répondu à cette question, mais si son utilité n'est pas prouvée, elle sera annulée.
Miss Williams tremblait d'énervement sur sa chaise.
« Je ne vous comprends pas, » balbutia-t-elle.
« N'avez-vous pas passé 15 jours seul à la campagne avec le docteur Lane ?»«
C'était pour travailler. »
Un des jurés se mit à rire.
« Quel âge avez-vous, Miss Williams ?»«
28 ans. »«
Vous n'avez jamais été mariée ?»«
Non. »«
Comment, une jolie femme comme vous, jamais mariée ?»
« Il me semble vous avoir déjà dit non.
Mais je ne vous en remercie pas moins pour le compliment. »
Les yeux d'Abbott s'étaient depuis un moment presque fermés, mais il les ouvrit tout grand lorsque Ray s'inclina en souriant.
« Il n'y a pas de quoi. Vous nous avez assez montré vos jambes ce matin. »
Il y eut un silence tendu. Tous les yeux étaient tournés vers Miss Williams. L'ébauche d'un sourire éclaira les lèvres du président.
Miss Williams regardait Gray droit dans les yeux, et lui la fixait aussi.
Le visage de la jeune fille se marbrait de taches rouges. Elle serrait les dents dans un bain effort pour retenir ses larmes.
Inconsciemment, elle tira sa jupe sur ses genoux. « C'est révoltant !»
Elle se mit à trembler et enfouit son visage dans ses mains en sanglotant.
Le président suspendit l'audience pendant un quart d'heure.
Assis derrière sa table, Gray considéra Abbott qui s'efforçait de réconforter le témoin. « Agissez-vous toujours ainsi ?» demanda Marlowe à Gray avec un sourire contraint.
Je ne peux pas faire autrement.
Tout repose sur les déclarations de ce témoin. Je suis obligé de détourner l'attention du jury.
Il se reversa du café. Abbott s'approcha.
C'est un sale tour que venez de me jouer là, Gray.
Quand donc ?
À propos de Miss Williams ?
Non, cette façon de poser la première question. Vous saviez très bien que je m'y opposerais et que je me couvrirais de ridicule. Vous m'envoyez navré. »
C'est bon. En tout cas, elle est tellement énervée maintenant qu'elle est fin prête pour le contre-interrogatoire.
Mais vous ne gagnerez pas ce procès, Gray, quels que soient les tours que vous avez en réserve. »
Gray sourit et avala son café.
« Je vais réduire votre acte d'accusation à néant. Ce qu'il y a d'ennuyeux pour vous, c'est que vous n'avez pas suffisamment préparé votre dossier. Vous avez tout basé sur le fait que personne d'autre que mon client ne pouvait avoir commis ce crime.
Eh bien, cela me semble suffisant. »
Quand l'interrogatoire reprit, Miss Williams semblait plus calme, bien qu'elle se refusât à regarder Gray.
« Qu'avez-vous fait lorsque vous avez aperçu le corps du docteur Lane ?»«
Je me suis approché de son bureau et j'ai constaté qu'il était mort. »
Gray recula d'un pas.
« Comment ? Vous voulez dire que vous n'avez même pas poussé un cri ?»
Elle balbutia. « Je crois que je n'y ai pas pensé. »
Il se mit à rire.
« Il n'y a pas besoin d'y penser pour crier. »
Elle ne répondit rien, fixant la rose qu'il portait à la boutonnière.
« Quand vous avez quitté le premier bureau pour vérifier ce qu'apportait le camion, combien de temps êtes-vous restée absente ?»«
Environ 3 minutes. »
« Autrement dit, vous vous trouviez hors de la maison au moment précis où le crime fut commis. »
« Je suppose que oui. »
Il lui montra le plan du rez-de-chaussée.
« Ces lignes irrégulières entourant la maison représentent-elles des buissons ?»«
Oui. »
« Il serait facile de se cacher dans ces buissons et de ne pas être vu des passants, n'est-ce pas ?»«
Je n'en ai aucune idée, je n'ai jamais essayé. »
Elle parvint à sourire faiblement.
« Vraiment ?»
insista-t'il en souriant aussi.
« Votre honneur, » dit Abbott d'un ton là, « je ne vois pas à quoi mènent ces questions, pas plus que cette dernière insinuation. »
« Je retire la dernière question, » dit Gray, se tournant vers le témoin.
« Passons à autre chose. Vous avez déclaré dans votre déposition, le docteur Lane m'avait dit la veille qu'il attendait quelqu'un à 10 heures.
Ne saviez-vous pas de qui il s'agissait ?»«
Non, je ne l'ai pas demandé. » »«
N'est-ce pas étrange ? » ?»«
Le docteur n'avait-il pas l'habitude de vous dire le nom des clients qu'il attendait ?»«
Si, je veux dire non. Il ne m'a pas parlé de Mr. Marlowe. » »«
Pour quelle raison ?»
Comment voulez-vous que je le sache ?
Maintenant, éclaircissons cette histoire de porte. Vous avez dit que la porte était bloquée. Qu'entendez-vous par là ?
On ne pouvait pas la fermer. Elle fonctionnait mal depuis quelques semaines.
Qu'est-ce que le docteur vous a dit quand vous le lui avez signalé ?
Que cela n'avait pas grande importance et qu'il l'arrangea lui-même dès qu'il aurait un moment de loisir.
Gray ouvrit des yeux étonnés.
Vous voulez dire qu'un psychiatre, qui doit absolument être seul avec ses clients, a trouvé tout naturel que cette porte reste continuellement ouverte ?
Elle se leva d'un bond.
Oui, oui, et oui. C'est mot pour mot ce qu'il m'a répondu, je vous le répète.
Il lui fit signe de se rasseoir.
Vous prétendez que Mrs. Marlowe était en termes plus qu'amicaux avec le docteur ? Vous avez entendu ce que j'ai raconté à propos du rouge à lèvres.
Le docteur était-il beau garçon ?
Votre honneur !
Intervint Abbott. La cour ne s'intéresse nullement au physique du docteur.
Je pensais, dit Gray avec un sourire, que la cour s'intéressait au contraire à la physionomie du docteur Lane.
Après tout, Mrs. Marlowe a bien dû voir quelque chose d'attrayant en lui,
puisque l'accusation prétend qu'elle était amoureuse de lui.
Répondez à la question, ordonna le président en frappant sur sa carafe d'eau.
Il me semble qu'il était beau garçon, reconnut-elle de mauvais gré.
N'êtes-vous pas la championne de tir au pistolet au club féminin de la ville ?
Abbott repoussa sa chaise. Ce n'est pas Miss Williams l'accusée. Vous ne cherchez qu'à...
J'ai l'intention de m'expliquer par la suite.
Gray enfonça ses mains dans ses poches. Le président ordonna au témoin de répondre à la question.
Oui, en effet, alors ?
Gray se rassit sans faire attention à elle.
Je n'ai plus de questions à poser.
Elle descendit rapidement de l'estrade.
On appela le secrétaire qui se trouvait dans le premier bureau au moment du crime. Il corrobora les dires de Miss Williams et Gray l'écouta sans tenter de discréditer son témoignage, le regardant à peine.
« Avez-vous des questions à poser au témoin ?» demanda Abbott.
Levant les yeux vers lui, Gray répondit lentement
« Aucune question. »
Il en fut de même avec le livreur de matériel médical. L'audience fut suspendue pour le déjeuner.
Le premier témoin de l'après-midi, un sergent de police, au visage rubicon et à la grosse voix, s'assit en soupirant profondément et croisa les mains sur son ventre. Grâce à deux marques qu'il avait faites sur le canon du revolver le jour du meurtre, il reconnut celui qu'on lui présenta comme étant l'arme du crime. Gray semblait se désintéresser totalement de ce que disait le sergent et feuilleter un magazine.
Le sergent, qui était chargé de l'affaire, avait interrogé les trois témoins et arrêté l'accusé aussitôt après. Il expliqua au juré qu'il était impossible de tirer de l'extérieur, à travers la fenêtre de la salle d'attente, dans le cabinet du docteur, sans faire de trou dans la porte. Or, il n'y avait pas de trou dans la porte. On avait relevé les empreintes digitales de Marlowe sur le revolver, un Smith & Wesson de calibre 32 avec un silencieux. Non, il n'avait pas été possible de savoir d'où venait l'arme, mais il y avait tant de marchands d'occasion malhonnêtes. Oui, Marlowe avait reconnu lui-même qu'il se trouvait seul avec Lane dans les deux pièces. « Avez-vous des questions à poser aux témoins ?» demanda Abbott. « Aucune question. » Fronçant les sourcils d'un air soupçonneux, Abbott fit appeler le témoin suivant. L'expert en balistique confirma ce que le sergent avait dit du revolver. Quand on lui avait remis, le barillet contenait 5 balles et une douille vide. Le revolver portait l'inscription « Modèle A ». Tandis que l'expert continuait, expliquant au jury qu'à une distance de 8 pieds, la poudre ne laissait aucune trace visible, Gray fut pris soudain d'une quinte de toux. Ses yeux s'emplirent de larmes, il tenta de se lever, mais il s'effondra sur sa chaise. Tout le monde, dans la salle, tendit le cou. Le président se pencha en avant. « Êtes-vous en état de continuer ?» Gray agita la tête et se frotta la gorge. « Ce n'est rien. Une tasse de café me remettra. L'interrogatoire peut continuer. » Marlowe lui versa du café et il l'avala d'un trait. L'expert poursuivit sa déposition, mais le jury ne s'intéressait plus à ce qu'il disait. Gray s'abstenait toujours de poser des questions. On appela le médecin légiste. La mort de Lane avait été presque instantanée. La balle avait traversé l'œil gauche, pénétrant selon une ligne inclinée de haut en bas, et pouvait avoir été tirée par un homme se tenant debout dans l'embrasure de la porte. « Avez-vous des questions à poser au témoin ?» Gray se leva lentement et s'approcha du témoin. « Comment savez-vous que la balle a été tirée par un homme debout ?»« D'après la position d'un homme normalement assis, comme l'était le docteur Lane à ce moment-là. »« Et comment pouvez-vous savoir que le docteur Lane était assis dans une position normale ?»« Je supposais. »« Peu importe ce que vous pouvez supposer, vous n'êtes pas plus en état que le docteur Lane, à l'heure actuelle, de nous indiquer l'angle de tir avec une exactitude absolue. » Il s'assit, congédiant le témoin. Abbott s'éclaircit la voix. Et annonça « L'audience est suspendue ». La cour se retira jusqu'au lendemain matin, 10 heures. À 10h05, tandis que la pluie battait les vitres des hautes fenêtres de la salle d'audience, Gray, vêtu d'un élégant complet bleu rayé, commença sa plaidoirie. Il s'adressa au jury d'une voix claire et vibrante. « Mesdames, messieurs, vous savez, j'en suis convaincu, où est votre devoir? Si la culpabilité de mon client ne fait pour vous aucun doute, prononcez un verdict de culpabilité. Mais s'il subsiste le moindre doute dans votre esprit, il est alors de votre devoir de le proclamer non coupable. J'ai l'intention de vous démontrer que ce doute existe. Mon client est innocent et je vais le prouver. Souvenez-vous qu'il a été inculpé presque uniquement en raison du fait que la police n'a pu réussir à expliquer qui eût pu tuer le docteur Lane à part lui. Pourtant, malgré ces circonstances, il doit paraître ridicule à des gens tels que vous qu'un homme aussi versé que le mon client dans la science du crime puisse commettre un meurtre aussi maladroit. Il se tourna vers son client. L'unique témoin de la défense est Mr. Niles Marlowe. Il y eut des chutes dans la salle quand Marlowe, pâle et les lèvres serrées, se leva de toute la hauteur de ses 6 pieds et monta sur l'estrade des témoins. Il prêta serment et Gray l'interrogea. Il avait été voir le docteur pour s'enquérir de l'état de sa femme. Miss Williams l'avait introduit dans la salle d'attente et lui avait désigné une chaise tournant le dos à la fenêtre, lui déclarant que le docteur était occupé et le recevrait dans quelques minutes. Il attendait depuis un peu plus d'une minute quand il avait entendu un plop suivi d'un grognement. Il s'était naturellement précipité dans le cabinet où il avait trouvé le docteur mort. Pourriez-vous décrire exactement la position de son bureau ? Autant que je m'en souvienne, il était au fond de la pièce, de biais, dans le coin gauche à la diagonale de la porte. En sortant, il avait remarqué sur le tapis un revolver qu'il avait ramassé. C'est alors que Miss Williams était entrée. « Avez-vous tué le docteur Lane ?»« Non. » Gray se tourna vers Abbott avec un sourire engageant. « Avez-vous des questions à poser aux témoins ?» Abbott commença à parler en termes aimables et modérés, puis en vint aux insinuations les plus appuyées. Marlowe était d'une jalousie maladive. Il était tellement habitué à raconter des histoires de crimes qu'il n'avait pas hésité à en commettre. De propos délibérés, il avait mis fin au jour de Lane, qui, sans méfiance... Durant 20 minutes, il proféra des accusations sans fin. Marlowe répondait placidement, chaque fois qu'il réussissait à placer un mot. Mais pendant les dernières minutes, il perdit son assurance et se tournait continuellement vers Gray, qui regardait Abbott en souriant et en hochant la tête. Épuisé, Abbott reprit place à sa table et poussa un soupir d'assurance. Le président Thompson ajusta ses lunettes et croisa les mains. « Veuillez déposer vos conclusions, Mr. Abbott. » Abbott acquiesça d'un signe de tête, avala un verre d'eau et se leva face au jury. C'était un orateur de talent. Renonçant aux violents éclats du contre-interrogatoire, il choisissait posément ses mots. Il exposa les conclusions que l'on pouvait tirer des dépositions des témoins, faisant de nouveau ressortir combien la culpabilité de l'accusé était flagrante. « Dans un cas comme celui-ci, déclara-t-il en terminant, vous serez tenté de rejeter la responsabilité sur Mrs. Marlowe. Et il est regrettable, en effet, qu'elle ne puisse, elle aussi, subir son châtiment, car c'est à cause de femmes comme Mrs. Marlowe que le rôle de nos audiences est inutilement encombré. Cependant, l'accusé ne mérite aucune pitié. Il a ravi à un être humain le seul bien qui lui appartient incontestablement, sa vie. » Il se rassit. Sa plaidoirie avait été très convaincante et Marlowe passait nerveusement sa main sur son front, les yeux fixés sur la table. Gray se leva, cligna une ou deux fois des paupières et s'approcha du jury en s'éclaircissant la voix. « Je dois des félicitations à la tournée du district pour ses conclusions, » dit-il. « Elles étaient magnifiquement énoncées et pleines de toutes les qualités que l'on pouvait espérer. Malheureusement, elles ne contenaient pas un atome de vérité. Si mon client est coupable, pourquoi n'a-t-il pas tout simplement ouvert une des fenêtres du cabinet de Lane pour s'échapper par derrière ? C'eût été en tout cas un geste plus sensé que ceux que lui prête l'accusation. Fournir à 3 témoins tous les éléments voulus pour l'envoyer sur la chaise électrique, c'est inconcevable. D'autre part, on le soupçonne d'avoir monté de toutes pièces une histoire que le dernier des imbéciles lui-même n'irait pas raconter, sachant très bien qu'elle ne peut servir qu'à le condamner. La vérité paraît rarement vraisemblable à la police. Elle a rejeté l'histoire de mon client parce que personne d'autre que lui ne pouvait avoir tué Lane. Et pourtant, quelqu'un d'autre a tué Lane. » Il s'interrompit, prit une profonde respiration et poursuivit. « L'accusation vous a démontré que l'on ne pouvait pas tirer de l'extérieur par la fenêtre de la salle d'attente et atteindre le bureau sans faire de trou dans la porte, étant donné sa position. Eh bien, l'accusation se trompe. » Gray franchit la courte distance qui le séparait de la porte communiquant avec le cabinet du président et l'ouvrit toute grande. Voici comment se trouvait la porte le jour du crime à angle droit par rapport au mur. Gray fit un pas de côté et dit « D'après le plan du rez-de-chaussée, je me trouve à peu près dans la position qu'occupe la fenêtre de la salle d'attente par rapport à la porte. » Se tournant vers le jury, Gray désigna la porte du doigt. Il y a dans l'embrasure de cette porte un espace libre de 72 inches carrés à travers lequel une balle peut passer sans avoir quoi que ce soit à traverser. Abbott ne s'assit pas. Son honneur ajusta ses lunettes. Un chuchotement parcourut la salle, et les membres du jury se penchèrent en avant comme un seul homme. Gray plongea la main dans sa poche et en tira un revolver qu'il brandit devant Abbott. Abbott porta nerveusement la main à son revers. Cette arme est-elle chargée ? Pour toute réponse, Gray visa la porte et appuya sur la gâchette. Il y eut un fracas de verre brisé. Un tableau venait de tomber dans le cabinet du président. Gray laissa tomber l'arme sur la table du procureur et dit en le regardant « C'est un Smith & Wesson de calibre 32 et vous ne verrez aucun trou dans le battant de la porte. » Gray se tournait vers le jury. « J'ai employé exactement la même méthode que le meurtrier. J'ai tiré à travers la fente de la porte, dans l'espace compris entre le montant et le battant. Il y en a un à toutes les portes montées sur gond. Il a 6 pieds de hauteur et au moins 1 inch de largeur. » Il s'approcha du plan du rez-de-chaussée, prit un crayon de la poche de son gilet, en posa la pointe au centre du rectangle représentant le bureau de Lane. « Regardez bien, » dit-il, se tournant vers le jury. Il tira une ligne droite allant du bureau du docteur à la fente de la porte. Il prolongea cette ligne droite, elle passait par la fenêtre de la salle d'attente. « Voilà, » dit-il, le trajet suivi par la balle meurtrière. L'assassin se tenait dehors, devant la fenêtre. Mon client lui tournait le dos. Il a tiré à travers la fente et tué Lane. Il voyait très bien la partie de la tête qui a été touchée, de même que je voyais très bien tout à l'heure, dans le cabinet du président et à travers la fente de la porte, le tableau qui vient de tomber. Je me suis exercé à ce petit jeu depuis près d'une semaine. Il fallait que le meurtrier soit très bon tireur pour réussir à viser à travers un espace si étroit. Au moment où mon client s'est précipité dans le bureau, le meurtrier a jeté son arme par la fenêtre, sur le tapis, presque certain que mon client la ramasserait quand il la verrait. Ce qu'il fit en effet. Cette explication concorde avec tous les faits et vous prouve que mon client a dit la vérité. Dès lors, en toute conscience, vous ne pouvez rendre qu'un verdict de non-culpabilité. » Il s'assit, suivi des regards ébahis de toute l'assistance. Abbott regarda Gray avec un certain ressentiment et demanda la remise pour supplément d'informations. Gray se leva d'un bond. « Votre honneur, c'est avant d'arrêter mon client qu'il aurait dû faire son enquête. Il a déposé ses conclusions et je demande que le jugement soit rendu. » La remise fut refusée. La cour en fit part au jury qui se retira pour délibérer. 23 minutes plus tard, il revenait dans la salle. Le président du jury écouta le magistrat, parcourut la salle d'audience du regard et dit « Après avoir longtemps considéré les deux aspects de la question, il nous est apparu que la thèse de l'accusation n'était pas fondée et nous avons donc rendu un verdict de non-culpabilité. » Abbott n'écoutait pas, il avait les yeux fixés sur un siège vide, Mrs. Williams était partie. C'était de nouveau le même misérable bureau, mais cette fois aucun rayon de soleil ne passait à travers les rideaux. Une petite ampoule poussiéreuse répandait une maigre lumière dans la pièce. Gray regarda Mrs. Marlowe, puis une bouteille de whisky à moitié vide. Sa tête dodelinait d'avant en arrière comme celle d'un ivrogne. Il avait du mal à tenir ses yeux ouverts et y appuyait de temps à autre les paumes de ses mains. « Je suis venu vous remercier d'avoir sauvé mon mari et vous remettre les 5 000 $ que je vous dois encore, » dit-elle. Il approuva de la tête. « Je vous offre un verre. Ça semble bon de retrouver l'alcool. Je sens encore le goût de ce sacré café. Pouah !»« Non, » répondit-elle en fronçant les sourcils. « Je suppose que la police a arrêté Miss Williams maintenant. » Il hocha la tête et ouvrit les mains. « Pourquoi l'aurait-on arrêté? Ce n'est pas elle la coupable. Mais vous, c'est pourtant vous qui l'avez, pour ainsi dire, déclarée au jury, championne de tir au pistolet, sortie de la maison au moment du meurtre, tout concorde. » Il se mit à rire. « On ne peut mieux. Mais non, voyons, elle a dit la vérité. Elle n'aurait pas eu le temps de jeter le revolver par la fenêtre, de faire le tour de la maison en courant, d'entrer calmement dans le premier bureau, et d'arriver au moment où votre mari ramassait ce revolver. » Elle tira une bouffée de sa cigarette. « Alors, qui a tué Lane ?» Il sourit. « Quelle innocence ! C'est vous ! C'est pour cela que vous m'avez demandé de me charger du dossier. Il ne vous est pas venu à l'idée qu'un vieil ivrogne sauverait votre mari. Il vous fallait le plus mauvais avocat possible. Et en outre, vous ne m'avez laissé qu'une semaine pour me préparer. » Il toussa. « Vous êtes intelligente, et vous ne parlez pas trop. Mais j'ai tout de même vu clair dans votre jeu. Quelle a été votre impression quand j'ai démontré au jury comment vous aviez tué Lane? Quand vous avez vu tous vos plans s'évanouir? Vous êtes ivre. Bien sûr que je suis ivre, pourquoi ne le serais-je pas? Je ne sais pas pourquoi vous avez fait cela. Probablement à cause d'un autre homme. En tout cas, le principal était de vous débarrasser de votre mari. Vous avez réussi à rendre Lane amoureux de vous. Vous avez fait des allusions sournoises devant votre mari. Il a demandé un rendez-vous à Lane qui, deuxième marionnette entre vos mains, vous en a averti. Vous êtes sorti de bonne heure ce matin-là et vous vous êtes caché dans les buissons sous la fenêtre. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez ouverte. Vous auriez pu, en tout cas, si elle avait été fermée. Personne ne s'en serait rendu compte par cette chaleur. Vous aviez l'intention de tuer votre mari quand il entrerait dans la pièce, de jeter rapidement le revolver près de lui et de vous enfuir. Il vous fallait un silencieux. Autrement, n'importe qui aurait pu entendre la détonation, accourir et vous voir vous enfuir. Vous étiez certaine qu'on accuserait Lane d'avoir tué votre mari à cause de vous. C'est un vieux truc, mais il prend souvent. Mais tandis que vous attendiez, vous avez remarqué la fente de la porte et vous vous êtes rendu compte que vous pourriez atteindre Lane juste à la tête. Il but à même la bouteille de whisky. C'est à ce moment que vous avez imaginé le traquenard dans lequel vous pourriez faire tomber votre mari. De toute façon, vous étiez sûr d'une chose, ils disparaîtraient tous les deux. Mais si vous tuiez votre mari, le procès de Lane ne tournerait peut-être pas exactement comme vous le souhaitiez. Tandis qu'en tuant Lane, vous ne courriez plus aucun risque. Vous n'avez pas pensé une seconde que quelqu'un pourrait penser à la fente de la porte. Elle souffla une bouffée de fumée et sourit. « Vous êtes fou. Ce procès vous est trop fatigué, et vous vous en ressentez. D'ailleurs, tout ceci n'est que pure supposition de votre part.
« Vraiment ? » ironisa-t-il. « Alors, où êtes-vous allé ce matin-là ?
Faire des courses.
À 8 heures du matin.
Tâchez de trouver un meilleur alibi. » Elle poussa un soupir, se leva, se mit à sa droite et lui dit en lui tapant dans le dos.
« Vous êtes malin, Gray. Très malin. »
Elle ouvrit son sac et en sortit un petit pistolet automatique noir. Elle le braquait sur lui. Quand il se leva d'un bond, lui arracha le revolver et la gifla.
« Vous voulez tuer Bill Gray maintenant, hein ? Parfait. À botte, vous pouvez sortir. Vous en avez assez entendu. »
Une porte s'ouvrit toute grande et Abbott, suivi de 3 hommes, entra vivement dans la pièce. Elle pleurait, injuriait Gray et trépignait. Gray fit glisser le pistolet dans la poche de sa veste. Les 3 hommes réussirent à la calmer et l'emmenèrent de force. Gray prêta l'oreille, elle sanglotait en descendant l'escalier. Abbott souriait timidement.
Gray ouvrit le tiroir de son bureau et en tira un verre.
« Vous buvez quelque chose ?» Abbott accepta d'un signe de tête. « Vous savez, dit-il, si je ne vous avais pas écouté, Miss Williams sera en train de se morfondre en prison. »
Gray versa le whisky.
« Je lui dois des excuses.
Mais il fallait bien que je détourne les soupçons du jury sur quelqu'un que tout semblait compromettre.
Or, tout concordait à la compromettre beaucoup plus facilement
que Mrs. Marlowe, à part la question du temps.
Vous... » Il laissa tout à coup tomber sa mâchoire inférieure en écarquillant de grands yeux.
« Qu'est-ce qui vous arrive ?
Votre cœur ?»
Gray hocha la tête.
« Non, mes $5,000, je ne les aurai jamais maintenant. »
Abbott éclata de rire.
« N'y pensez plus.
Pensez à ce que vous avez fait pour la justice.
Au diable, la justice ! Je suis refait de ma galette. »
Ainsi s'achève « Le meurtrier a joué serré » par Leonard Thompson.